Bonsoir, bienvenue dans les bulles nomades, le podcast créatif et slow. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, je reviens pour la première bulle nomade de 2022. Donc bonne année à vous si vous écoutez cette émission au moment de sa sortie. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu d'identité et de travail identitaire. Parce que c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment, en tant qu'artiste, en tant qu'être humain. Et si mon expérience peut vous inspirer ou vous fournir des pistes de réflexion, ça me fera très plaisir. Alors c'est un gros sujet, du coup je me suis installée confortablement dans mon canapounet, j'ai allumé une bougie parfumée, je me suis préparé un bon thé bien chaud, parce que ça va être une discussion un petit peu longue, je pense. Déjà pour commencer, sachez-le, je nage en plein dans ce que j'ai baptisé une crise existentielle quinquennale. En revenant un petit peu sur mon histoire personnelle, je me rends compte que j'entre en crise identitaire à peu près tous les 5 ans, depuis que je suis adulte. En 2006-2007, j'étais en échange universitaire à Tokyo, au Japon, lorsque j'ai vécu une sorte de mue vers l'âge adulte, en quelque sorte, en sortant de mon petit monde socio-culturel pour découvrir une autre culture à l'autre bout du monde, ce qui a remis en cause beaucoup de certitudes qui faisaient la fondation de mon identité. En 2011-2012, je me suis plongée dans le minimalisme. J'ai totalement remis en question mes habitudes de consommation et par extension, comment je passais mon temps et la personne que j'étais en train de devenir à mon insu. J'ai peu à peu renoué avec la lecture, l'écriture, le dessin, tout en remettant en question toutes les injonctions de la société de consommation. En 2016-2017, j'ai fait un burn-out, j'ai quitté mon CDI et j'ai totalement remis en question ma définition de la réussite professionnelle, mais de la réussite tout court, et de ce que je voulais vraiment pour ma vie personnelle et professionnelle. Je me suis lancée dans le monde des indépendants et j'ai entamé un chemin vers mon identité actuelle d'artiste pluriel et slow. Et nous arrivons enfin en 2021-2022 pour la 4e crise existentielle quinquennale et je suis en train de remettre à plat mon rapport au temps, mon identité de femme et ce à quoi je veux que mon quotidien ressemble. Dans l'ordinaire des moments de vie, là où il y a 5 ans, mon questionnement était plutôt global autour de ma carrière professionnelle et mes aspirations générales. Et là, c'est plus une remise en question de la vie quotidienne, en fait, de la personne que je veux être au jour le jour. Et cette fois-ci, je me suis rendu compte que ces crises existentielles, en plus d'être quinquennales, sont, dans mon cas personnel, intimement liées à mon identité. Ce que je pense être, le décalage entre qui je suis devenue de manière inconsciente et qui je veux vraiment être au plus profond de moi-même, qui je pense possible ou pas de devenir dans mes circonstances de vie, avec mes compétences, avec mon expérience, etc., ma perception de moi-même et du monde qui m'entoure. En d'autres termes, ce sont des crises identitaires. Une crise identitaire tous les 5 ans, c'est le fun, hein, je suis absolument ravie. Cette fois-ci, vu que j'ai conscience qu'il s'agit d'une crise identitaire, j'ai décidé de me plonger dans un travail identitaire de manière consciente et intentionnelle, notamment grâce à la philosophie, la psychologie et les outils de coaching. Et je me suis dit que ce serait intéressant pour commencer, parce que oui, je pense qu'il y aura d'autres bulles nomades sur le sujet en 2022, parce que c'est un sacré sujet que je commence à aborder en ce début d'année. Je me suis dit que ce serait intéressant de commencer par parler un petit peu de la notion d'identité et de en quoi c'est important de conscientiser tout ça en fait et de travailler là-dessus. Qu'est-ce que notre identité ? Alors déjà, on peut se dire que c'est ce qu'il y a sur notre carte d'identité, donc notre apparence physique, notre taille, la couleur des yeux, notre nom, notre date et lieu de naissance, le nom de nos parents, notre nationalité, ce genre de choses. Et ça, ce sont des critères administratifs qui permettent de classifier les citoyens, en quelque sorte, et de les reconnaître. Mais ça ne dit pas réellement grand-chose sur la complexité d'une identité humaine. Ce sont seulement des caractéristiques qui influent sur la culture qui nous a forgés, etc., etc. Alors, qui sommes-nous, vraiment, derrière tous ces critères d'apparence ? Pourquoi je me pose la question en ce moment en tant qu'être humain et non pas en tant que sociologue ou philosophe et compagnie? Parce que j'ai pris conscience en 15 ans de crise existentielle, quinquennale, que mon identité façonne la vie que je mène. Je vais le répéter parce que c'est hyper important. Mon identité façonne la vie que je mène. Je vais prendre une gorgée de thé pour célébrer ça. Mon identité façonne la vie que je mène. Mon identité, c'est l'histoire que je me raconte à propos de moi-même, ce que je pense que je suis, ce que je me pense capable de faire, ce que je pense qui m'est accessible par rapport à ma classe socioculturelle, par exemple, à mon lieu de vie, ce que je crois possible ou pas pour moi, intrinsèquement, ou par rapport au monde dans lequel on vit, etc., etc. Tous ces éléments viennent ensuite façonner ce que j'ose faire ou pas, ce que je m'autorise à vouloir pour ma propre vie, et par extension, ce que devient ma vie effectivement dans le concret. Ça va venir définir de qui je m'entoure, quel type de travail je fais, où je vis, etc., etc. Du coup, en tant qu'être humain qui essaye de vivre au mieux dans le monde moderne, on en est un petit peu tous et toutes là, je pense, j'ai remarqué à quel point c'était important dans ma qualité de vie de conscientiser l'identité que je me donne et de la changer pour une identité qui m'amène vers la vie que je veux vraiment. Du coup, qu'est-ce que j'ai choisi de qualifier d'identité pour moi-même et ici dans ce podcast? Je pense que c'est important que nous parlions ensemble autour d'une même définition et qu'on se comprenne sur les mots que j'ai choisis. Pour rappel, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas philosophe, je ne suis rien de ce genre. Donc c'est vraiment une acception personnelle de l'idée d'identité que je me suis appropriée pour moi-même, pour ma qualité de vie, et qui m'est très utile, du coup je la partage humblement avec vous. Mais bien sûr, si le sujet vous intéresse et que vous le souhaitez l'approfondir, je vous invite vraiment à faire des recherches autour de la notion d'identité, auprès justement de ressources qui sont issues de la philosophie, de la psychologie, de toutes ces choses-là, par des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que moi pour parler de ce concept global. Là, je vais vraiment parler comment moi je me le suis approprié en tant qu'être humain, en tant qu'artiste. Pour moi, ce qui fait notre identité en tant qu'être humain avec des cerveaux qui conçoivent le monde en créant des histoires pour donner du sens à ce qui nous entoure, c'est ce que j'ai appelé notre imaginaire intérieur. C'est le terme que j'ai choisi pour donner corps à cette notion, c'est-à-dire dans notre jardin intérieur, conscient et inconscient, tout ce qu'on se raconte à propos de nous-mêmes. Nos souvenirs, ce que nos parents ou autres figures d'autorité nous ont raconté à propos de qui on était dans notre enfance. Nos expériences de vie, ce que la société raconte à propos des gens de notre nationalité, de notre région, de notre classe sociale, de notre sexe, du genre qui nous est attribué, etc., etc. Mais c'est aussi ce qu'on se raconte à propos de nos capacités, de nos qualités, de nos défauts, de nos éléments de personnalité. En gros, notre identité, c'est tout notre imaginaire intérieur, nos pensées, nos croyances, nos souvenirs, nos émotions, nos valeurs, qu'on cultive à propos de nous-mêmes. C'est notre image de nous-mêmes, en fait. Comment on se voit, comment on se perçoit, l'histoire qu'on se raconte à propos de nous-mêmes, c'est notre identité. Et cet imaginaire intérieur s'est construit à partir de plein de paramètres, la plupart extérieurs. C'est-à-dire que ce sont des graines que d'autres personnes ont plantées à propos de nous et qu'on a continué à arroser de manière inconsciente sans vraiment les remettre en question. Par exemple, peut-être qu'on a eu un prof de maths qui nous a dit un jour qu'on n'était pas fait pour comprendre les chiffres quand on avait 10 ans. Et on a intégré cet élément dans notre identité. Je ne suis pas bon pour les chiffres. Qu'on se traîne encore 20 ans, 30 ans après, en gardant en tête l'idée que c'est impossible pour soi de comprendre les chiffres. Et du coup, on n'essaye même pas. Mais cet imaginaire intérieur se construit aussi à partir de ce qu'on ose faire, de ce qu'on apprend à faire. Plus on essaye de faire quelque chose, plus on sait le faire. Et plus on sait le faire, plus on se prouve qu'on sait faire cette chose, et plus ça devient une partie de notre identité. Par exemple, plus j'écris, plus je m'améliore en écriture, plus je termine d'histoires, plus je reçois des retours positifs des lecteurs et lectrices, plus mon identité d'écrivaine s'ancre dans mon imaginaire intérieur. Ce qui m'amène à une théorie hyper importante pour moi qui a changé ma vie. Non seulement notre identité n'est pas figée, mais en plus on peut la choisir. Je choisis qui je suis. Cette petite phrase, cette prise de conscience, est une graine qui m'a changé la vie. Je choisis qui je suis. C'est moi qui décide. C'est pas mon prof de maths d'il y a 20 ans. C'est moi qui décide qui je suis. Bien sûr, il y a certains éléments qu'on ne choisit pas. Où on est né, notre famille, notre âge, nos caractéristiques physiques, notre identité passée, certaines caractéristiques propres à notre fonctionnement d'être humain. Mais en fait, si notre identité se constitue de toutes les histoires qu'on se raconte à propos de nous-mêmes, de l'image qu'on cultive à propos de nous-mêmes, on peut changer la majorité de cette histoire. On peut prendre exactement les mêmes souvenirs, exactement les mêmes faits, et choisir de les interpréter différemment. Nous sommes les créateurs et les créatrices des histoires que notre cerveau raconte. C'est nous qui donnons du sens aux choses. Donc on peut choisir le sens qu'on veut donner aux choses. On peut changer cette histoire de manière consciente. Par exemple, le fameux prof de maths qui nous a dit qu'on n'était pas bon avec les chiffres, au lieu de se raconter « je suis nulle avec les chiffres », je peux choisir de me raconter « ce prof avait quand même beaucoup de préjugés à propos de ses élèves ». En quoi le fait de changer mon identité m'a aidée, moi personnellement ? Alors on pourrait faire un podcast entier autour de cette question, ce qui va peut-être avoir lieu dans les prochaines semaines et les prochains mois, mais la version courte c'est la suivante. Ce que je pense être détermine ce que je m'autorise à faire. Ce que je pense être détermine ce que je m'autorise à faire. Et je crois qu'il y a une citation qui est attribuée à Aristote, qui est l'idée qu'une action devient une habitude, qui devient une routine, qui devient un trait de caractère. Il me semble que la citation est « Nous sommes ce que nous répétons chaque jour ». Et je crois que c'est Aristote. Mais ce que je répète chaque jour dépend de qui je pense être. Et c'est cette couche-là que j'ai envie de rajouter pour vous aujourd'hui, que j'ai rajouté pour moi, qui m'a aidée, et que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Ce que je crois possible pour moi détermine ce que j'ose faire. Ce que je pense être détermine ce que je fais. Et ce que je fais détermine la qualité de la vie que je construis pour moi-même. Donc, ce que je pense être détermine ce que je fais. Ce que je fais détermine qui je suis. Ce que je pense être détermine donc qui je suis. Ce que je pense être détermine ce que je deviens. Est-ce que vous êtes encore là avec moi, là ? Je vous ai pas perdu. Donc si je change qui je pense être, je change ce que je fais, et donc je change qui je deviens. Est-ce que vous voyez le cercle vertueux qui peut s'établir ? Si je remets en question ce que je pense être, je peux choisir de nouvelles pensées autour de qui je suis. Et ces nouvelles pensées m'autorisent à faire des choses que je ne faisais jamais avant. Ces choses deviennent des habitudes, des routines, qui façonnent une nouvelle vie. Et je deviens qui j'ai choisi d'être. J'ai changé mon identité, ce qui m'a apporté une nouvelle qualité de vie. Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Je produis ce podcast sur mon temps et mes deniers personnels et je tiens à ce qu'il reste sans pub. Vous pouvez me soutenir pour le prix d'un café sur patreon.com/floriteller. Les paliers voyageurs et plus ont accès au script des podcasts en PDF. Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui me soutiennent déjà. En fait, l'élément crucial dans cette affaire, c'est l'ordre dans lequel les choses se passent. Souvent, on croit que c'est en faisant qu'on devient, qu'en fait, il faut commencer par faire. Et après, on est. C'est le fameux « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». On forge d'abord et on est forgeron après. Alors c'est vrai hein, qu'en forgeant, on devient forgeron, mais il manque une étape avant tout ça. Tout commence par changer qui on pense être. Parce que c'est ça qui détermine ce qu'on fait. La première étape n'est donc pas de faire, mais d'être. La première étape, c'est de changer notre identité au niveau de nos pensées, de notre imaginaire intérieur, de notre perception de nous-mêmes. C'est en décidant de devenir forgeron que je commence à forger tous les jours. Ensuite, je deviens effectivement forgeron. Si je pense que je ne suis pas forgeron, si je pense que je ne pourrai jamais devenir forgeron, je ne vais jamais prendre la peine de forger et je ne deviendrai donc jamais forgeron. Donc oui, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est en décidant d'être forgeron qu'on commence à forger. Vous voyez ce que je veux dire ? La première étape consiste donc à choisir notre identité, à changer l'histoire qu'on se raconte à propos de nous-mêmes, à venir mettre de l'intention, de la conscience sur notre vision de nous-mêmes, sur notre perception de nous-mêmes, et de venir choisir cette histoire. Et ensuite, cette nouvelle histoire qu'on a choisie va nous aider à changer nos actions et à devenir effectivement cette personne qu'on a choisi d'être. Par exemple, pendant des années, je me suis raconté l'histoire que je ne peux pas être écrivaine parce que ce serait réservé à une certaine classe socioculturelle à laquelle je ne fais pas partie. Et du coup, dans cette identité, il y avait cette idée de la carrière d'écrivain m'est inaccessible, l'écriture m'est inaccessible. Et pendant tout ce temps où je cultivais cette identité-là, je n'ai pas écrit, ou j'ai écrit tellement peu qu'aucun projet n'arrivait à bout, ce qui ne faisait que confirmer cette identité que je ne suis pas écrivaine et que c'est hors de ma portée. Et puis un jour, pendant la précédente crise existentielle quinquennale, ou les réflexions qui ont mené à la précédente crise existentielle quinquennale, j'ai pris conscience que c'était tout à fait possible pour moi de devenir écrivaine. D'ailleurs, un grand merci à Elisabeth Gilbert et son livre « Comme par magie » pour avoir déclenché cette prise de conscience. À partir de cette prise de conscience, mon identité a changé. Petit à petit, au fil du temps, j'ai changé l'histoire que je me racontais à propos de moi-même. Au lieu d'être la chargée de communication junior qui boucle les fins de mois comme elle peut à Paris et qui trouve un petit peu de temps le week-end quand elle peut, quand elle a l'énergie, pour écrire en guise de loisir du dimanche, je suis devenue une écrivaine en début de carrière qui doit aller travailler par ailleurs pour pouvoir payer son loyer, mais qui est avant tout une écrivaine en début de carrière. À partir de là, mes actions ont changé. J'ai rejoint un forum d'écriture, j'ai fait des exercices d'écriture créative pour m'améliorer, j'ai soumis des textes à des éditeurs et j'ai fini par décrocher des publications. Je suis effectivement devenue écrivaine. Je suis devenue écrivaine parce que j'ai mis des actions en place. Donc surtout, évidemment, le fait d'écrire de manière régulière, c'est vraiment la base, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. Et ces actions que j'ai mises en place m'ont amenée à m'améliorer dans mon écriture, à mieux comprendre le milieu de l'édition aussi, et à avoir des textes complets à envoyer en publication et à savoir comment et où et auprès de qui les envoyer en publication. Mais en premier lieu, avant de mettre en place toutes ces actions, je me suis autorisée à écrire de manière régulière parce que j'ai commencé à me voir comme une écrivaine en début de carrière. J'ai commencé à entrevoir la possibilité d'être dès maintenant une écrivaine en début de carrière et de devenir plus tard une écrivaine publiée. Et cette possibilité-là m'a donné le courage et l'enthousiasme de trouver des solutions pour écrire régulièrement. Toujours dans le contexte d'un travail salarié à temps plein. À ce stade-là, ma vie professionnelle n'avait pas encore changé. C'est donc grâce à ça, grâce au fait que j'ai commencé à me voir comme une écrivaine en début de carrière, que j'ai trouvé des solutions pour écrire tous les jours et que je suis effectivement devenue écrivaine. J'ai changé mon identité avant de mettre en place les actions. J'ai changé mon identité pour mettre en place les actions. Et j'ai réussi à mettre les actions en place parce que j'avais d'abord changé d'identité. Ça, en coaching, j'ai découvert cette année, j'ai découvert il y a quelques semaines grâce au podcast qui s'appelle Beyond the Self d'Africa Brooke, qui est un podcast en anglais. J'ai découvert récemment un modèle de coaching qui encapsule exactement cette idée-là. Et ce modèle s'appelle le modèle Be, Do, Have. Donc, qui signifie en français « être, faire, avoir ». Et le concept de ce modèle, que vous pouvez aller chercher sur internet si vous voulez en savoir plus, c'est un concept très très simple. Pour avoir ce qu'on veut, donc là par exemple une publication d'un texte chez un éditeur à compte d'éditeur, il faut commencer par être écrivain, ce qui nous pousse à faire ce que ferait un écrivain, ce qui nous amène en conséquence à avoir une publication chez un éditeur. Donc ça se passe dans cet ordre-là. Be, être, je change mon identité pour me voir dès maintenant comme une écrivaine, je suis une écrivaine, être. Ce qui va amener en conséquence, faire, d'où. Que ferait un écrivain en début de carrière? Je mets en place les actions que mènerait un écrivain en début de carrière. Écrire, apprendre, soumettre des textes des éditeurs, trouver du temps pour écrire tous les jours, mettre l'écriture en priorité au quotidien, etc., etc. Et enfin, dernière étape, avoir, have, en conséquence de tout ça, j'obtiens une publication chez un éditeur après avoir passé toutes ces années à écrire, à corriger, à soumettre. Je finis par décrocher mon premier oui et j'ai ma publication. Mais ce avoir, avoir cette publication à compte d'éditeur, c'est une conséquence de mon identité d'écrivaine. Ce n'est pas la cause. On croit souvent hein, que c'est la publication à compte d'éditeur qui fait l'écrivain, qu'une personne n'est pas écrivaine, n'est pas légitime tant qu'elle n'est pas publiée. Et moi, je pense que c'est très très faux, pour plein de raisons. On en reparlera si vous voulez. Mais c'est très très faux, notamment pour une raison. C'est qu'il faut être devenu écrivain avant pour avoir quelque chose à publier en premier lieu. Donc on confond la cause et la conséquence. On pense que c'est en ayant, donc le avoir, qui nous permet d'être quelque chose, mais c'est l'inverse. C'est en étant quelque chose qu'on met en place les actions qui nous permettent en conséquence d'avoir cette chose. C'est parce que je suis écrivaine que j'ai la publication et pas l'inverse. Et c'est ça toute l'essence de ce fameux modèle be, do, have, être, faire, avoir, et qui est vraiment à la base du travail identitaire que je suis en train de mener avec moi-même et avec ma coach en ce moment. Et c'est aussi pour cette raison-là que je trouve si important de comprendre l'identité et de faire un travail conscient sur notre identité et sur comment on se perçoit soi-même, puisque c'est justement ce travail identitaire qui nous permet de faire les actions qu'on veut faire pour avoir les objectifs qu'on veut atteindre. Donc c'est bien en travaillant sur notre identité qu'on change notre vie. Maintenant, en admettant que j'ai réussi à vous convaincre qu'il faut travailler sur l'identité, je suis sûre que vous êtes très très convaincus. Je vais prendre une petite gorgée de thé. Et je vais terminer ce podcast en vous disant deux mots, je pense qu'il y aura d'autres podcasts dédiés à tout ça, mais en vous disant deux mots sur comment je m'y prends concrètement pour changer cette histoire que je me raconte à propos de moi-même. Personnellement, il y a deux éléments qui m'ont permis de changer mon identité au fil du temps et qui m'aident à changer actuellement mon identité dans cette crise identitaire quinquennale. Ces deux éléments sont les suivants. Ce que je pense possible pour moi, donc le sens du possible, et ce que je veux, donc la volonté, le désir que j'ai à l'intérieur de moi. Ce que je pense possible pour moi, donc cet élément-là, c'est ce qui me permet de croire à cette nouvelle identité. Je peux me raconter toute la journée une nouvelle histoire à propos de moi-même, si au fond je n'y crois pas, ça ne marchera pas. Si j'essaye de me convaincre moi-même que je suis écrivaine, mais qu'au fond j'y crois pas, je ne deviendrai pas écrivaine et je ne mettrai pas en place ces actions, ça ne marchera pas, il faut que j'y croie. Et pour y croire, il faut que je cultive le sens du possible. Comment croire cette nouvelle histoire que je me raconte ? Comment croire que, à partir d'aujourd'hui, je deviens cette personne ? Bah, c'est justement en cultivant ce sens du possible, en cultivant l'idée que c'est possible pour moi de choisir cette identité et de le devenir au fil du temps. Ça fait des années que je parle du sens du possible sur ce podcast. Vous avez pas mal de ressources déjà disponibles si vous voulez explorer davantage autour du sens du possible. Et on en reparlera en 2022. Et je pense que c'est un élément central de notre imaginaire intérieur, hein, le fait de porter notre attention sur le sens du possible et de venir remettre en cause les pensées du genre « je suis le genre de personne qui »,« je suis incapable de », »,« c'est impossible pour moi de ». Vous voyez ? On a toutes ces pensées sur nos capacités, nos compétences, toutes ces choses-là qui définissent ce qu'on croit possible sur nous-mêmes. Et l'idée de cultiver le sens du possible, c'est de venir remettre ça en question et de venir changer ce qu'on croit possible pour nous-mêmes, venir casser un petit peu les barrières limitantes pour changer ce qu'on croit possible pour nous-mêmes. Et concrètement, l'idée derrière tout ça, c'est que vous pouvez aller voir un coach ou aller sur Pinterest récupérer des affirmations positives toute la journée. Si vous ne croyez pas profondément en ces affirmations, si ça ne paraît pas possible pour vous, ça ne marchera pas. Donc pour moi, la première étape de ce choix d'identité, c'est de déconstruire une à une les croyances qu'on a à propos de soi qui nous empêchent d'avancer, comme cette fameuse croyance « devenir écrivain n'est pas accessible à ma classe sociale », et de venir chercher des preuves que c'est faux, et de venir trouver une nouvelle interprétation possible aux éléments qui nous entourent, à nos souvenirs, à nos actions passées, pour cultiver un sens du possible beaucoup plus ouvert et beaucoup plus large. Et donc avec cette étape, on se construit une histoire en laquelle on est en mesure de croire. Par exemple, j'aurais pas pu me construire une histoire comme quoi je vais vendre des millions d'exemplaires à la sortie de mon tout premier bouquin. Je me rends bien compte que le côté best-seller, c'est un coup de chance que je ne maîtrise pas. Donc si je m'étais répété « je vais devenir le prochain Guillaume Musso », ça n'aurait pas marché. Parce que le sens du possible est ancré dans le réel. C'est pas des illusions qu'on se raconte en se mettant la tête dans le sable, ça marche pas. C'est quelque chose qui prend en compte les réalités de la vie pour qu'on soit amené à y croire vraiment. Donc ce sujet, comme je vous disais, il y a déjà plein de ressources dans le passé des bulles nomades et on en reparlera en 2022. Si vous avez des questions sur le sens du possible, n'hésitez pas à me les envoyer sur floriteller.com/contact ou en commentaire de ce podcast sur floriteller.com/BN169. Ça me donnera des pistes sur des sujets à approfondir à l'avenir qui pourraient vous intéresser. Et le deuxième élément identitaire, c'est ce que je veux vraiment. Qu'est-ce que je veux ? Mais vraiment, moi ! C'est-à-dire qu'on croit tellement que notre identité est un élément extérieur à nous, qui est défini à notre place, par des éléments sur lesquels on n'a pas le contrôle, notre sexe, notre histoire, notre lieu de naissance, nos caractéristiques physiques et psychologiques, etc., qu'on en oublie finalement qu'en tant qu'être humain, nous sommes capables d'autodétermination. On ne peut pas changer notre passé, mais on peut choisir déjà ce qu'on en pense, et surtout, on peut choisir comment on choisit d'agir à partir de maintenant. À chaque seconde, nous créons notre moi futur. Nous choisissons notre identité tous les jours. Mais si on n'a pas conscience de ça, on perpétue inconsciemment l'identité que d'autres personnes ont choisie pour nous, en fait. Comme cet exemple du prof de maths qui a dit un jour qu'on n'était pas doué pour les chiffres et qu'on l'a cru, et on perpétue cette idée qu'on n'est pas doué avec les chiffres sans jamais la remettre en question. Du coup, avec cette étape, j'ai envie de vous inviter à vous demander « Ai-je envie d'être bon avec les chiffres ? Qui ai-je envie d'être ? Qui ai-je envie de devenir ?» Et bien souvent, on ne s'autorise pas à se poser cette question parce qu'on a passé notre vie à se faire dire qui on devrait être et on a passé notre vie à essayer de s'y conformer. Ça fait peur finalement de se demander qui on veut être. Parce que si la réponse n'est pas conforme à ce que la société ou les autres attendent de nous, ça peut faire très très peur de se libérer finalement de ses attentes pour oser être soi. Et un autre problème que ça peut poser, c'est qu'on peut se rendre compte qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Qu'on a été tellement influencé parce que les autres nous ont dit qu'il fallait qu'on veuille, qu'on ne sait pas ce qu'on veut en fait. On s'est tellement construit soit en accord, soit en opposition aux injonctions sociales, qu'on ne s'est jamais vraiment demandé ce qu'on voulait. Et par conséquent, on ne le sait pas. On n'a pas conscientisé encore ce qu'on veut vraiment au fond de nous-mêmes. Et ça, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui, par exemple, par rapport à ma féminité et à certains sujets qui y sont liés, comme par exemple l'idée de devenir mère, d'enfanter. On m'a tellement abreuvé de stéréotypes sexistes sur ce que les femmes devraient être, sur ce que les mères devraient être pendant toute ma vie, que je me suis construite en opposition à ça. Mais dans toute cette lutte contre l'identité de femme qu'on a voulu m'imposer, ben je me suis comme perdue en route. Je ne sais plus aujourd'hui quel genre de femme j'ai envie d'être. Donc du coup, voilà, pour moi, c'est un ingrédient hyper important de la construction identitaire. De prendre le temps de l'introspection, de se connaître soi-même et de prendre conscience de ce qu'on veut vraiment. Et ça aussi, c'est un sujet qu'on approfondira, hein, ce côté introspection et savoir ce qu'on veut et comment on peut savoir ce qu'on veut. On en parlera dans des bulles nomades futures. Pareil, si vous avez des questions, posez-les-moi, ça va m'aider à guider le contenu des futures bulles nomades sur ce sujet-là. Pour boucler cette bulle nomade-là et résumer ce que je vous ai dit aujourd'hui, deux ingrédients m'aident à façonner ma propre identité. Le premier ingrédient, c'est le sens du possible, déconstruire les histoires que je me racontais jusque-là pour cultiver le sens du possible et avoir une idée plus réaliste de ce que je suis vraiment capable de devenir. Et franchement, on est capable de devenir beaucoup plus que ce qu'on croit. Et deuxième élément, faire un travail d'introspection et de recherche curieuse pour découvrir ce que je veux vraiment au fond de moi. Et c'est ce croisement entre ce que je veux vraiment et ce que je pense possible pour moi qui vient changer peu à peu l'histoire que je me raconte à propos de moi et qui m'ouvre à la possibilité de choisir une nouvelle identité pour moi-même. Je choisis mon identité et ensuite je mets en place les actions qui me permettent de devenir cette personne. Et c'est ça qui a changé ma vie ces 15 dernières années. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des idées autour de ce sujet, vous pouvez les partager en commentaire sous les notes de cette émission sur floriteller.com/bn169 ou en me contactant directement via floriteller.com/contact. Pour des réflexions écrites autour de la créativité, la simplicité et le slow, j'envoie également une lettre électronique tous les dimanches matins si vous aimez lire des emails avec un café le dimanche matin. Vous pouvez les recevoir en vous inscrivant sur floriteller.com/lettre, L-E-T-R-E. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine !